Chapitre 24. Lorsque des mois plus tôt, au chalet du lac Noir, Caleb Traskman lui avait demandé quelle était pour elle la pire façon de mourir, Julie avait répondu la noyade. Elle aurait dû répondre la faim. Quand les plateaux n'étaient plus arrivés, son corps avait pu compenser en puisant dans ses réserves. Julie se souvenait d'avoir appris, à l'école, que l'organisme consommait d'abord le glucose emmagasiné dans les muscles. Puis, une fois les stocks épuisés, il fabriquait un substitut qui augmentait le taux d'acidité dans le sang et provoquait tout un tas de bouleversements douloureux. Nausées, maux de tête, crampes abominables, dérèglements hormonaux, perte de mémoire. Au début, elle s'était mis un point d'honneur à poursuivre la marche et la lecture, malgré les signaux d'alerte permanents lancés par son corps. Il ne fallait pas qu'elle capitule. Elle s'obligeait à faire fonctionner ses méninges. Songeait au fait que Traskman l'avait vu se débarrasser de la nourriture dans les toilettes. Cela signifiait peut-être qu'un trou, bien caché dans le mur, lui avait échappé. Ou alors que de minuscules caméras étaient planquées dans la mousse en hauteur et inaccessibles. Au bout du cinquième ou sixième matin, ou soir, elle ne savait plus, elle ne faisait plus le tour de sa prison, mais se traînait à peine jusqu'au lavabo pour boire. En revanche, elle parlait à voix haute, inlassablement, le suppliant de lui donner à manger. Elle le lui promettait, elle n'essaierait plus de s'enfuir. Il pourrait faire d'elle ce qu'il voulait, pour peu qu'elle se mette quelque chose dans le ventre. Un jour, quand elle revint vers le lit, elle récupéra ses boulettes de mie, les contempla longuement dans sa paume ouverte et ne put résister. Elle les compta de nouveau. Il y en avait 19, elle oubliait systématiquement, avant de les gober. Elles étaient rassis, craquantes comme du papier de verre, et ne firent qu'aggraver l'insupportable manque. Au réveil suivant, elle rampa sous le lit, à la recherche d'une miette égarée. Elle trouva une araignée qui avait tissé sa toile entre deux lattes, refusa de la sacrifier et fit vibrer la soie du bout de ses ongles. L'animal se déplaça vivement. Julie le contempla avec tristesse. Lui aussi devait avoir faim. Elle le baptisa Anne Onim, en référence à l'un des personnages de Dix Petits Nègres, et se demanda combien de temps pourrait vivre sa nouvelle compagne sans se nourrir. Les crampes la torturaient en permanence. Elle lui tordait les boyaux, à tel point qu'elle avait l'impression que son estomac se consommait lui-même. Sa poitrine s'aplatissait, les os de ses articulations saillaient. Sur les articles de journaux désormais flous, elle distinguait des gâteaux, des buffets, des assiettes débordant de pâte à la sauce tomate. De désespoir, elle finit par avaler le contenu du tube de dentifrice, ce qui lui provoqua des douleurs au ventre durant toute la nuit. Le lendemain, l'idée de se goinfrer de papier journal lui traversa l'esprit. Elle ne pensait à rien d'autre qu'à manger, et se contentait à présent d'aller aux toilettes pour uriner des lames de rasoir, lui semblait-il, de se remplir d'eau et de se recoucher. Puis, un matin, elle perçut le déclic de la trappe. Julie se traîna jusqu'au couloir, certaine qu'il s'agissait d'un tour de son imagination. Mais sur le plateau, du poulet et une belle assiette de spaghettis l'attendaient. Elle pleura de bonheur lorsqu'elle ingurgita son repas, sans même sentir le goût des aliments. 10 minutes plus tard, elle vomissait tout. Le cycle normal se remit progressivement en place. Pas besoin de montre ou d'horloge pour connaître l'heure de la pitance. Elle salivait abondamment juste avant que ne claque la trappe. Quand elle récupérait la nourriture, elle remerciait la porte et allait se réfugier dans un coin, protégeant son butin comme une bête. Nuit, lumière, 3 repas par jour. Plus de jus d'orange, donc plus de drogue. Elle en venait presque à le regretter. La drogue avait ce mérite de la sortir d'ici, le temps de quelques heures. Elle reprit des forces, donna des miettes à son araignée, pas convaincue que ça fasse partie de son régime habituel. Quand son cerveau fut de nouveau capable de fonctionner correctement, elle se rendit compte de sa régression mentale. Elle n'était plus qu'une enfant qui évoluait dans un univers restreint, fait de rituels rassurants et rythmés par la volonté d'un homme, son seul lien avec le monde des vivants. Il était son cordon ombilical. Sans lui, elle mourrait, et dans des conditions abominables. Alors à quoi bon se rebiffer? Sa révolte n'engendrait qu'une souffrance inutile. Depuis combien de temps était-elle enfermée là? Elle ne savait plus. Elle ne trouvait plus ses boulettes sous le lit, les chercha un bon moment avant de se souvenir vaguement de les avoir avalées. Même si elle ne comptait plus les jours, elle avait un indice. Elle ne se rappelait pas avoir eu ses règles. D'ailleurs, le paquet de serviettes hygiéniques était toujours intact. Ça devait donc faire moins d'un mois qu'il la retenait prisonnière. Peut-être le printemps était-il déjà installé dehors. Le 2 avril, ça allait être l'anniversaire de son père. Elle n'arrivait pas à visualiser l'instant. À quoi ressemblerait ce qui était censé être une fête alors qu'ils étaient tous sans nouvelles d'elle? Certainement à un jour encore pire que les autres. Désormais, la lumière ne lui apportait plus guère de réconfort, mais l'obscurité lui offrait le répit dont elle avait besoin. Elle y était seule et n'avait pour limite que celle de son imagination. Elle se projetait, se représentait les détails de sa vie après sa libération. Elle se lancerait à corps perdu dans le sport pour devenir encore meilleure en VTT. Elle voyagerait grâce aux sponsors. Ses parents seraient fiers. Elle s'était fabriqué des boules-quies avec de la mie de pain pour atténuer le ronflement de l'aération. Elle avait cassé un morceau de savon qu'elle frottait sur le dos de sa main, sur son oreiller, et reniflait dans le noir. Instantanément, cette odeur la ramenait à la maison, lui évoquait le linge étendu qui volait au vent dans le jardin. Ça l'aidait à s'endormir, avec le visage bienveillant de ses proches. Elle aimait bien aussi lire un article juste avant que les ténèbres ne tombent. Dans sa tête, elle transformait le drame en un événement joyeux et bâtissait une nouvelle vie pour ses familles. Au lieu de prendre la voiture qui avait causé sa mort ce soir-là, un tel décidait de partir à pied et il faisait une belle rencontre. La fillette, quant à elle, ne se noyait pas au bout du ponton, mais était rattrapée de justesse par un vacancier, véritable héros qui finissait par se marier avec la mère. Ces histoires qu'elle se racontait, cette nourriture intellectuelle l'emportait loin d'ici. Elle lui rappelait que le monde existait, à l'extérieur, et que un jour, elle y retrouverait sa place. Un soir, elle reçut un plateau avec beaucoup plus de victuailles que d'ordinaire. Il contenait deux récipients de soupe, des légumes froids cuisinés, dans des boîtes en plastique, du jambon, du rôti, un litre de lait. Des réserves qui, lorsqu'il n'y eut pas de distribution ni de ramassage de survêtements les jours suivants, lui firent penser que Traskman s'était absenté. Pourtant, la lumière continuait à s'allumer et à s'éteindre, invariablement. Une seule possibilité, elle devait être réglée de façon automatique. Prudente, Julie attendit que la chose se répète pour mettre à profit cette opportunité, ce qui ne tarda pas. Quand elle récupéra un autre plateau contenant l'équivalent d'une petite dizaine de repas, elle laissa passer la nuit et la matinée pour être certaine que son bourreau n'était pas là. Puis, aux alentours de midi, comme toujours c'était son estomac qui faisait office d'horloge, elle tenta de faire céder la trappe à gros coups de pied, allongée sur les coudes et en propulsant ses jambes. Rien ne bougea. Elle se releva, se jeta sur la porte de tout son poids, jusqu'à se faire mal. Ses échecs ne la désespérèrent pas. Elle se faufila sous le lit et commença à arracher la mousse. Caleb n'irait pas voir là-dessous. Les alvéoles étaient extrêmement compactes, presque comme du plastique dur, il était impossible d'y enfoncer les doigts, mais on pouvait néanmoins les dépiauter. Elle ramassa ensuite chaque débris et s'en débarrassa dans les toilettes. Quand elle se rendit compte que, derrière, se dressait un mur en béton qui ne sonnait même pas creux lorsqu'elle tapait dessus, elle encaissa le choc, sonnée, mais pas encore vaincue. Elle avait un ultime plan en tête, le plus risqué, car Caleb le remarquerait à son retour. Pourtant, elle devait donner l'alerte, coûte que coûte. Elle s'empara d'un coton-tige et le glissa dans l'un des trois trous d'observation. C'était insuffisant pour chasser le morceau de mousse qui l'obstruait. Elle en regroupa alors plusieurs dans sa main et réessaya, poussant doucement l'ensemble. Cette fois, la pression fut assez forte, le bouchon recula. Quand elle ne sentit plus de résistance, elle sut que le cylindre était tombé de l'autre côté, celui de la liberté. Par l'orifice, elle ne discerna pourtant rien d'autre que de l'obscurité. Elle renouvela l'opération avec les deux autres trous où, là encore, seules les ténèbres l'accueillirent. Le découragement la gagna petit à petit, au point qu'elle se réfugia sur le lit. Là, à la seconde où la pièce bascula dans le noir, elle crut rêver lorsqu'elle vit un ray de clarté s'échapper de l'un des trous. Elle alla y plaquer son œil, distingua un rayon de soleil, juste là, à 1 mètre à peine, et comprit qu'à l'extérieur, on était en plein jour. Traskman avait trompé jusqu'à son métabolisme. Elle dormait le jour et vivait la nuit, ce qui limitait les risques qu'un visiteur diurne et inopportun puisse, malgré la mousse, entendre quoi que ce soit. Par le trou, elle aperçut des alignements de crânes rangés dans des niches, des livres dans leur bibliothèque. Sur la gauche, une vieille chaise munie de sangles et surmontée d'une sorte de coupole métallique, une chaise électrique en guise de décoration. Plus en avant, un tapis sur le plancher en bois et un bout de table. C'était le bureau de Caleb Traskman, ce lieu fou où il écrivait ses histoires. Si près de l'endroit où il la retenait prisonnière. Comble de l'horreur, un téléphone fixe posé face à elle la narguait. Elle en hurla de rage. Cet appareil pouvait lui sauver la vie, or il était inaccessible. Les deux autres trous, quant à eux, ne laissaient rien filtrer. Peut-être donnait-il sur des pièces fermées, sans fenêtre. Faisant fi de ses cordes vocales douloureuses, elle cria, encore et encore. Quelqu'un allait-il finir par l'entendre? Le facteur? Un livreur? Un voisin? Elle tendit l'oreille, ne perçut pas même un craquement de tuyauterie. Cette maison était désespérément vide. Julie se laissa choir contre le mur, fatiguée et à faune. Où Traskman se rendait-il quand il partait? Où logeait-il? Julie l'imaginait discuter avec des amis, manger au restaurant avec son éditeur, ou juste marcher dans la rue, au milieu du monde et des coups de klaxon. Des gens, des couleurs, la vie. Pendant qu'elle était seule avec sa mie de pain dans les oreilles et ses bols de soupe froide. Pendant qu'elle l'attendait, croisant les doigts pour qu'il revienne la nourrir, plus consciente que jamais que c'était dangereux dehors, qu'il pouvait se faire renverser, avoir un accident de voiture. Et si elle tombait malade en son absence, qui la secourrait? Une fois, après une phase de sommeil, elle ouvrit les yeux et ne distingua plus la clarté. Elle alla enfoncer son majeur dans le trou. Il avait été rebouché. Idem pour les autres. Caleb était de retour. Il avait dû trouver par terre les cylindres de mousse. Elle se terra dans son lit, les genoux regroupés contre son torse. Elle devinait sa colère, parce qu'elle avait percé son stratagème des nuits inversées. Elle avait bravé les interdits, et lorgné de l'autre côté du mur une zone qui lui était proscrite. Elle lui avait désobéi. Plus tard, elle perçut le bruit sec de la trappe, comme le feulement d'une guillotine. Elle s'avança avec prudence. Par terre, une enveloppe. Elle la ramassa, la déchira. À l'intérieur, elle découvrit un rectangle de papier cartonné sur lequel figurait un avertissement qui lui glaça le sang. « Ne cherche jamais à t'enfuir, ou alors... » D'un geste peu assuré, elle le retourna et manqua de s'évanouir. Sur le cliché, une jeune femme était en train d'être écorchée vive.